France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Un carnet avec un dessin de Saraké en couverture, un cadenas pour retenir et garder secret les mots écrits sur ces pages blanches. C'est comme cela que tout a commencé, que l'écrit est entré dans ma vie. Les carnets n'ont jamais cessé d'exister. Des mots pour dire ce qui ne se dit pas, ces paroles qui envahissent votre corps et qui ne parviennent pas à trouver une voie. Écrire pour s'alléger, écrire pour respirer et puis écrire pour le plaisir. C'est comme cela que tout a continué. Écrire pour soi et pour les autres. La radio est devenue une autre écriture, un pont entre vous et moi. L'écriture engage, elle est une responsabilité, un pouvoir, un privilège sans doute. Et vous, quelle place a l'écriture dans votre existence? Vous a-t-elle aidé à certains moments de votre vie? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos mots également par courriel et notes vocales sur l'application de Radio France et même sur WhatsApp. Nous sommes le jeudi 24 juillet, vous écoutez France Inter, grand bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter, grand bien vous fasse, Eva Rock.
Écrire a été une manière pour moi de comprendre ce qui m'était arrivé et surtout d'assembler une identité qui avait été fragmentée, éparpillée au gré de cette guerre, de cette violence, également au gré de mon exil qui a été aussi une période où les repères n'étaient plus là. L'écriture, cet endroit-là, ce papier, ce stylo était comme une petite patrie où je pouvais me reconcentrer, me redéfinir. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu écrire. Je n'avais pas d'amour pour ni l'écriture ni la lecture. Et cette première fois où j'ai écrit correspondait à un moment de peur. Et j'aurais pu, je ne sais pas, trouver une autre manière de faire. Mais l'écriture s'est imposée. Et ensuite, cette répétition-là, je la trouve toujours mystérieuse. Qu'est-ce qui fait que moi ou d'autres, on se tourne vers l'écriture quand les choses sont un peu étranges dans notre vie? C'est mystérieux et en même temps, voilà, ça soigne quand même, ça permet d'avancer.
Les mots de Gaël Faye, qui évoque son pays, le Rwanda, parlent de l'écriture comme d'une nouvelle petite patrie et s'interroge sur l'aspect mystérieux des mots. C'est en grande partie le sommaire de notre émission du jour en présence de deux invités que je suis très heureuse de vous présenter. Bonjour Léonie Pernet.
Bonjour.
Autrice, compositrice, interprète, votre troisième album vient de sortir. Il est intitulé « Poèmes pulvérisés », c'est au pluriel. Nous écouterons un des titres « Réparer le monde » dans quelques minutes. Et oui, parce que le verbe « réparer » est au cœur de notre émission ce matin. Bonjour Aya Sissoko.
Bonjour.
Autrice de trois récits puissants, Dambé, j'espère que je le prononce bien.
C'est très bien.
Est-ce qu'on peut le traduire, Dambé?
Alors, si on doit trouver un équivalent, ce serait l'honneur, la dignité.
L'honneur, dignité. Enba, c'est votre deuxième récit qu'on peut traduire par
Ma mère.
Ma mère. C'est en bambara, c'est ça? C'est en langue bambara.
Exactement.
Et Au nom de tous les tiens, ce dernier livre est publié au Seuil. Trois livres pour évoquer votre histoire, celle de votre famille, et qui s'inscrivent aussi comme un héritage que vous souhaitez transmettre à votre fille. On va en parler. Aya Sissoko, moi j'ai l'impression que le terme autrice est quelque peu réducteur au regard de votre parcours. Et la première question qui est sans doute peut-être la plus difficile, mais comment résumer en quelques mots votre vie? Si vous deviez mettre des mots pour raconter qui vous êtes aujourd'hui, vous diriez quoi?
Un couteau suisse.
Un couteau suisse, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que j'ai investi des espaces où on ne m'attendait pas forcément, puisque le premier a été la boxe, que j'ai pratiquée pendant près de 20 ans. Et puis ensuite, il y a eu l'écriture qui est arrivée. Et c'est un espace, enfin ça a été deux espaces qui ont été très importants pour construire en fait celle que je suis aujourd'hui. J'ai commencé à travailler le corps, à investir le corps, et par la suite ça a été la tête, ouais. L'esprit. Et finalement je peux dire que je suis arrivée à un moment où la tête parle au corps et réciproquement.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, votre corps il est vital en fait dans ce processus d'écriture.
Il est vital parce que les émotions passent par le corps, donc ça peut être quelque chose en fait d'agréable comme quelque chose de très très douloureux, mais c'est quelque chose que j'accepte.
Léonie Pernet, il paraît que vous vous êtes mise à la boxe.
Tout à fait, il y a un an, je suis devenue très obsessionnelle de ce sport.
Et comment ça se fait? Pourquoi vous êtes allée vers la boxe, vous savez?
Parce que je pressentais, j'avais l'intuition que ce serait un petit laboratoire pour la vie. C'est un sport qui nous apprend énormément sur nous-mêmes et qui permet en effet de se rattacher au sol et de se questionner aussi, de travailler beaucoup sur soi, la défense, l'attaque, tout ça, c'est absolument passionnant.
Et est-ce que ça vous a changé quelque chose dans le processus créatif? Vous avez l'impression qu'il y a des ponts qui se font entre votre pratique de la boxe et votre écriture?
À ce jour, non.
Pas encore, ouais. Ouais.
Je commence humblement.
Ouais, alors Aya Sissoko, il faut que je vous précise, Léonie Bernet. Aya Sissoko, quand elle dit qu'elle a fait 20 ans de boxe, elle a fait 20 ans de boxe, mais elle est championne. Enfin, vraiment, vous avez fait de la compétition, vous le savez, Léonie. Ouais, voilà.
Je suis une grande fan.
Léonie, quels sont les mots qui racontent qui vous êtes aujourd'hui?
Ce sont les mots que je choisis. Parfois, ce sont aussi les mots que les autres choisissent. Parfois, les journalistes, en l'occurrence. C'est ceux que je choisis dans mes morceaux et qui me permettent
de vous définir.
Désenclaver. Ouais. De me définir, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie peu, le fait de me définir. Parce que j'ai passé du temps à cesser de vouloir le faire.
Ouais.
Donc c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et puis alors si on parle de mots qui réparent, j'ai l'impression que dans notre société aujourd'hui, c'est vraiment pas ce qui nous fait du bien. Donc laver toutes les identités, toutes les situations du jeu dans des étiquettes tout à fait restreintes et étroites.
Ouais. Les mots, ils sont arrivés après la musique, en ce qui vous concerne, Léonie Pernet. Vous auriez pu avoir une carrière de compositrice uniquement, où il y a eu une espèce d'urgence à aussi utiliser les mots dans votre art?
C'est vrai que j'ai commencé, alors j'écrivais un peu vaguement de poésie quand j'étais ado, mais j'ai commencé par faire de la musique instrumentale, et ce, pendant très longtemps, et je pensais ne faire que ça. Alors, je dis ça, c'est quand j'avais 18 ans. Hein, donc,
ouais.
Mais en effet, les mots ont fini par arriver, d'abord en anglais, d'abord même en yaourt. Et puis, le yaourt, c'est quand on chante n'importe quoi, quand on est en train de composer une chanson. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a eu le français qui s'est imposé. Et maintenant, c'est très net, très évident. Et c'est vrai que j'ai eu besoin de dire des choses et de préciser. La langue.
On va y revenir tout au long de cette émission. Je voudrais vous citer la psychologue clinicienne Neila Chidia, qu'elle écrit dans L'écriture qui guérit. C'est un livre publié chez Odile Jacob, que je vous recommande grandement d'ailleurs. Elle dit « L'écriture construit la pensée, elle en est l'architecte. Elle, que vient faire l'écriture si ce n'est combler un vide, un manque, une perte, un effondrement intérieur ?» Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça, Aya Sissoko, quand vous êtes lancée dans l'écriture ?
Alors, il est clair que pour moi, en fait, l'écriture a été un outil pour mettre de l'ordre dans le désordre, c'est-à-dire comprendre, essayer de rationaliser ce qui nous était arrivé, pourquoi ça nous était arrivé, pour mieux justement me délester en fait du poids de l'existence qui a été la nôtre.
Alors, quand vous dites la vôtre, c'est-à-dire celle de votre famille,
celle de ma famille, ce que nous avions eu à subir. Et c'était véritablement en fait donner du sens aux choses, dire en quelque sorte que tout ça n'était pas de l'ordre du hasard.
Ouais.
Et c'est quelque chose en fait de très important finalement pour aller mieux, dans le sens que on comprend que tout n'est pas de notre faute. Et pour un enfant, adolescent, adulte, c'est important justement de se défaire du poids de la culpabilité. Et l'écriture aussi, c'est quelque chose qui m'a permis aussi de prendre de la distance avec tout ça, de m'en libérer. De marcher de manière beaucoup plus légère.
Vous avez reçu une éducation où il est important de parler, de dire les mots. Votre maman était comme cela, non?
Alors,
Oui, non.
Effectivement. Ouais. Non, mais effectivement, j'ai hérité en fait d'une culture orale, en fait, ouais. où la transmission se faisait en parlant avec l'autre. Mais très très rapidement, en fait, l'injonction qui nous a été faite, c'est de nous taire. Donc d'autres ont parlé à notre place.
Pour pas se faire remarquer, c'est ça. Pour quelle raison il fallait se taire?
Parce que, en fait, l'histoire familiale a fait que, à un moment donné, en fait, nous avons été mis au banc de notre clan, et donc il nous a fallu, en fait, naviguer seul, et donc il y a eu une injonction au silence, c'est-à-dire il faut avancer et on fait fi, enfin on fait fi du passé, on fait fi de ce que les autres disent de nous. Et puis, en fait, c'était aussi une douleur au fait qu'il ne s'exprime pas. C'est-à-dire que la vie était là et il fallait l'embrasser tout de suite. Donc, on n'avait pas le temps, en fait, de s'étendre, en fait, sur le sort qui était le nôtre. Et donc, voilà, investir ce jeu, comprendre, en fait, voilà, ce qui nous était arrivé, c'est quelque chose qui est arrivé très tardivement avec l'écriture où je m'autorisais enfin à donner ma version des faits.
Ouais.
Donc je reprenais ce pouvoir, le pouvoir de la parole, de dire voilà comment ça s'est passé. Et à partir du moment en fait où j'ai investi cet espace, il n'était plus question en fait d'en sortir.
Ouais. Est-ce que ça vous ennuie de revenir un peu sur votre parcours et sur votre enfance, notamment dans les quartiers de Ménilmontant? Vous n'avez pas une enfance, vous avez une enfance heureuse.
J'ai une enfance très heureuse.
Quand on vous lit, on comprend très bien que vous avez une enfance heureuse, mais dans un système économique pas très favorable, pour le dire simplement.
J'étais une enfant pauvre, mais heureuse. C'est-à-dire que ce n'est pas fait le manque matériel fait, qui a été à l'origine fait de notre malheur. Bien au contraire, nos parents avaient réussi à nous construire un espace. Au fait, qui était fait d'amour, donc au fait, et c'est ce dont voilà, des enfants ont besoin.
Et vous le racontez merveilleusement bien d'ailleurs, cette vie familiale dans ce tout petit espace dans lequel vous viviez. Il y a eu un drame qui vous a marqué, qui a marqué la vie de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Je pense que
ça raconte aussi, et ça précise que ce que vous venez de raconter et pourquoi les mots aussi ont été extrêmement importants.
Oui, il y a eu un drame, c'est-à-dire que en fait, des individus en fait, qui n'ont jamais été appréhendés ont mis le feu à l'immeuble dans lequel nous habitions. Et donc, à la suite de ça, en fait, je perds mon père et ma petite sœur. Et donc, très rapidement, en fait, commence une vie de combat. C'est-à-dire que ma mère, qui était destinée à être ménagère, femme au foyer, en fait, prend la tête de la famille. Et elle fait de nous, en fait, mon frère et moi, en fait, des soldats. C'est-à-dire que l'échec est inenvisageable. Et vous devez marcher, coûte que coûte. Et donc, bien évidemment, dans ce genre de contexte, se plaindre n'est pas une option.
Et les mots ne sont pas là.
Et les mots, bien évidemment, ne sont pas là.
On comprend mieux le silence dont vous parlez.
Parce qu'on n'a pas le temps, en fait, de prendre en charge cette douleur.
Ouais. Vous le racontez vraiment extrêmement bien et avec énormément d'émotion dans Dambé, qui est votre premier récit que vous avez écrit avec Marie Desplechin. Léonie Pernet, à la fin de l'année 2021, vous avez effectué un voyage qui a été déterminant dans votre vie, puisque vous êtes partie au Niger, le pays de vos origines. C'est au retour de ce voyage qu'il y a un vers d'un poème de René Char qui a résonné en vous, c'est ça?
Oui.
Vous pouvez nous le dire, ce vers en question?
Oui, tout à fait. J'ai pris ma tête comme on saisit une motte de sel et je l'ai littéralement pulvérisée.
Comment vous les avez reçus, ces mots? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça vous marque à ce point-là?
Parce que c'est les seuls mots que j'ai rencontrés qui racontaient ce que je pouvais ressentir au retour de ce voyage émotionnellement très 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 puissant et je trouve que ça raconte ce qu'est le geste de création, saisir sa tête et la pulvériser, et ça raconte aussi le fragment, les fragments. Et alors, je précise que c'est issu d'un recueil que René Char a écrit après la guerre, où il était résistant, la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est après avoir vu le monde qu'il écrit ça et la violence. Et en effet, ça, quand on vit des choses très fortes qui ne sont parfois pas malheureuses d'ailleurs. Se sentir fragmenté, pulvérisé comme ça, débordé, dépassé, ça m'a beaucoup marqué. Ouais.
Eva Rock, grand bien vous fasse sur France Inter.
J'ai voulu parler de moi surtout. Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que mon père est parti et que ça m'a fait beaucoup de mal.
3, 4, et je pense à ce rassurant.
Notre bande est swag.
3, 4.
Quand on serre sur les vagues.
3,
notre style n'a pas d'âge.
3,
quand on joue sur la plage.
3,
mon reflet dans l'eau fait ressortir mon côté sombre. C'est pour ça que mes amis me délaissent et me traitent comme une ombre. Je ne veux pas être submergée. Moi, je préfère m'envoler.
Extrait d'un reportage dans un atelier d'écriture auprès d'adolescents qui sont en difficulté. Se réparer grâce aux mots, c'est le thème de Grand Bien vous fasse ce matin en présence de deux plumes, deux autrices, Léonie Pernet et Aya Sissoko. Aya Sissoko, vous faites des ateliers d'écriture également, hein?
Oui, effectivement.
Avec des jeunes surtout ou
Alors avec surtout des jeunes, d'ailleurs, c'est le public que je privilégie parce que en fait, je les trouve encore très malléables, très très libres. Et c'est toujours un grand plaisir parce qu'ils font preuve en fait, d'une capacité, en fait, une inventivité, d'un talent qui est assez extraordinaire.
Je voudrais vous lire la question de Philippe. On reçoit beaucoup de messages d'auditeurs et d'auditrices, mais Philippe nous dit « Les mots, les cris, quelles sont leurs portées s'ils ne sont lus? Quels sont leurs pouvoirs s'ils ne sont partagés ?» Qu'en pensez-vous ?
Ben, c'est une question qui est très très pertinente et... Même si, en fait, me concernant, en fait, c'est vrai que tout d'abord, en fait, l'écriture est véritablement, en fait, me concernant, en fait, c'est vraiment plonger dans les interstices de ma propre chair pour en extraire le mal, pour me soigner, pour aller mieux. Mais je me rends compte aussi, en fait, que mes écrits, en fait, partent de l'individu. Hein. De l'expérience individuelle pour tendre vers l'universel. Beaucoup d'individus s'emparent de mes textes et les font leurs. Mais tout part de l'individu, tout part de son expérience personnelle, tout part de ce qu'il a envie de dire, de ce qu'il a envie de de soigner chez lui. Une fois que le livre a été publié, il ne nous appartient plus.
Et oui, vous vous êtes un peu dépossédé de ce que vous avez écrit, quelque part.
Chacun.
En tout cas, on se réapproprie vos mots et votre histoire.
Exactement, chacun épuise ce qu'il veut et en fait ce qu'il veut. Ça ne m'appartient plus.
Léonie Pernet, c'est pareil avec vos chansons, finalement.
Oui,
on se les accapare.
Oui, tout à fait. Après, je crois que la question que Philippe...
Oui, c'est ça, Philippe.
Poser, je crois. C'est à un moment donné la différence. Moi, je crois que dans une dynamique uniquement thérapeutique, si les mots ne sont pas partagés, ils peuvent soigner quand même.
Bien sûr.
À partir du moment où ils ont été écrits. Mmh. Après, il y a un moment donné où c'est peut-être ce qui fait la différence entre un geste créatif thérapeutique et un geste artistique en tant que tel, c'est qu'il doit être partagé, en effet.
Ouais. Je vais y arriver, Léonie Pernet, est-ce que le terme d'autrice vous convient? Est-ce que vous le revendiquez? Et si oui, à quel moment vous vous êtes sentie autrice réellement? C'est compliqué?
Non, c'est pas compliqué. Je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui. J'ai comme boudé à un moment donné la littérature vers mes 20 ans.
Ouais.
Et j'étais une très très grande lectrice, enfant et adolescente. J'ai redécouvert avec Pessoa il y a une petite dizaine d'années. Et j'ai replongé essentiellement dans la poésie plus que dans les romans. Et donc l'écriture est, j'ai envie de dire, revenue dans ma vie, parce qu'elle était là. C'est étonnant. Donc oui, je crois que ça me sied tout à fait. Et je le revendique, parce que le langage est au cœur de la langue, au cœur de la musique que je fais aujourd'hui.
Vous vous sentez autrice, vous, Aya Sissoko, après 3 livres?
Je sais pas, je dis, enfin moi, enfin je me considère comme quelqu'un en fait qui voilà qui prend la parole, enfin par ce médium, ouais. quand elle en ressent le besoin, parce que c'est celui qui me convient le mieux, c'est celui qui me permet de m'extraire au fait de la temporalité qui nous a imposée, c'est celui qui me permet de prendre le temps de dire les choses comme je le veux, c'est celui qui me permet le plus librement possible de manier le verbe. Au fait, finalement, c'est celui, en fait, c'est l'espace où je me sens le plus libre.
C'est étonnant parce que, alors, un récit n'est pas une chanson, mais reste que dans vos écrits, je perçois un rythme. Alors, est-ce que vous comprenez quand je dis ça ?
Je le comprends très très bien, mais j'ai été boxeuse pendant 20 ans.
Bah oui, alors franchement, je voulais pas faire le parallèle si un peu évident, mais on a l'impression que c'est des uppercuts aussi que vous mettez, enfin que vous placez grâce à vos mots, mais comme ça pourrait être aussi un battement d'un instrument de percussion. Non, vous voyez ce que je veux dire,
c'est... Oui, non, mais de toute façon, la boxe, au fait, c'est aussi en fait une temporalité, c'est respecter un rythme.
Mais donc vous le travaillez réellement quand vous écrivez ? Vous faites extrêmement attention à ça ?
Mais en fait, quand j'écris, c'est presque dans un souffle, c'est-à-dire que mon écriture est commandée par l'urgence. Il faut que ça sorte tout de suite, parce que ça me ronge de l'intérieur, en fait. Donc, il faut expulser tout ça, il faut expulser le mal. Donc, ça va très très vite, en fait. C'est vraiment très très rythmé. Voilà ce que j'ai à vous dire. En tout cas, voilà ce que j'ai à dire.
Ouais, moi, j'ai l'impression que vous avez une obsession du rythme. Presque.
J'ai une obsession du rythme parce que il faut que comme quelqu'un qui boxe il faut que les coups partent et faut qu'ils touchent c'est vraiment en fait la boxe en fait c'est vraiment en fait toucher sans se faire toucher. Et là donc c'est imposer en fait un rythme à l'adversaire, au lecteur, l'embarquer, en fait, le cadrer, enfin l'enfermer dans un coin et
le boxer, quoi.
Et boxer. Je boxe avec les mots.
Léonie Pernet, bon, la question est un peu évidente, mais le rythme, c'est un impératif dans votre art et dans votre processus créatif, autant musicalement qu'en termes d'écriture, je dirais.
Bah oui, tout à fait. J'ai un passif de percussionniste. J'ai commencé la musique par les percussions, donc bien sûr, c'est au cœur de l'écriture et puis au cœur de la composition et puis le rythme, la poésie, c'est du rythme avant tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je lis plus de poésie que de romans, à vrai dire, parce que je cherche ces phrases rythmiques. Partout.
Mais on le sent parfaitement parce que autant on pourrait chanter les mots de Aya Sissoko, comme on peut aussi lire vos chansons comme autant de poèmes. Alors je sais pas, mais enfin pour moi la poésie et la chanson c'est deux choses différentes. Mais vos textes sont tellement forts, on sent que c'est écrit vraiment au cordeau et comme des textes qui pourraient se lire dans un recueil.
J'y travaille.
Et on sent toute la douleur et la difficulté, c'est ça ? Non, mais le processus est très long, hein, j'imagine, non ?
Oui, le processus est long, en effet, parce que je crois que j'ai ce désir aussi de poèmes hors chanson, parce que la chanson supporte pas tout. Supporte pas tous les mots, toutes les structures de phrases ça me prend beaucoup de temps. Il y a parlé du souffle, de l'urgence. Il y a une première urgence, mais ensuite c'est beaucoup beaucoup de labeur pour que ce soit en effet au cordeau et que ça soit juste à chaque fois la vérité. Quand je dis la vérité, c'est pas la vérité extérieure, c'est
une
c'est
recherche
la mienne
de vérité,
qui
bien sûr,
de posture. Et ça c'est très très long de chercher ce désenclavement d'une réalité intérieure à travers la langue. Ça prend du temps.
Dans Au nom de tous les miens, de tous les tiens, pardon, lapsus, pardon. Dans Au nom de tous les tiens, votre dernier récit, Aya Sissoko, vous écrivez la colère et le refuge de ceux qui ne possèdent rien dans un monde fait par quelques-uns pour quelques-uns. Et je pense que vos mots vont résonner auprès de Yann Apéry qui vient de nous appeler. Bonjour Yann.
Bonjour.
Vous êtes auteur et en association avec la Maison de la Poésie, le SAMU Social, vous animez un atelier d'écriture intitulé « Écrire pour se reconstruire » et vous le menez avec des personnes qui sont en centre d'hébergement d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se déroulent ces ateliers, dans quel lieu d'abord ils se déroulent ?
Ils se déroulent généralement dans la bibliothèque de ce centre d'hébergement d'urgence,
oui,
qui se trouve rue Popincourt dans le 11e. De 15h à 18h, selon un rituel relativement immuable, et la porte est ouverte, et vient qui veut, et repart qui veut, quand il veut, quand elle veut, même si on a un beau noyau de participantes et participants irréductibles et sans lequel rien n'existerait.
Qui viennent régulièrement donc pour assister à cet atelier d'écriture. Alors,
oui.
Ces personnes qui viennent au départ, quel est leur rapport à l'écrit quand vous les rencontrez pour la première fois ?
Oui. En fait, l'atelier est composé et de résidents et résidentes du centre, ou d'anciennes résidentes qui reviennent ou qui continuent l'aventure, mais aussi de personnes invitées de l'extérieur qui peuvent être une amie, un ami, une connaissance. Il y a parmi elles des personnes qui, je sais pas, étaient directeurs d'une ONG en Côte d'Ivoire ou femmes d'affaires ou qui ont connu mon cuisinière et chacun ou chacune a eu évidemment un moment de grandes chutes.
Ouais.
Mais les parcours sont extrêmement variables et du coup les relations à l'écriture aussi sont extrêmement variables.
Et vous
une
les voyez...
personne qui n'écrit
et
pas
oui.
du tout
ouais.
à une personne qui en a déjà une pratique, voire qui est déjà poétesse ou poète avéré. C'est très 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 variable.
Et alors que représente l'écriture pour toutes ces personnes qui viennent ?
Bah, pour rejoindre ce que disait Aya à l'instant, en fait elle signifie des retrouvailles possibles en tout cas avec une zone ou une région désenclavée, je crois que c'est le mot qu'elle a employé.
C'est ce que disait Léonie aussi, Bernet, ouais, tout à fait, ouais, se désenclaver. Ouais.
Du coup, ce n'est pas une écriture au sens d'une écriture qui est seulement ou uniquement écriture de soi, ou seulement et uniquement écriture qui permet de se retrouver, de se reconstruire. C'est aussi, je pense, du fait du dispositif, qu'on soit ensemble et qu'on soit en confiance et qu'il y ait une espèce de cercle comme ça de présence qui se reconstitue de semaine en semaine avec des personnes qui deviennent très chères. Et aussi une écriture qui va au-delà de soi.
Ouais.
Et quand on touche à ça, donc on accède à des régions plus profondes de soi-même et qui permet aussi souvent passer un temps de reconstruction où on a besoin et une nécessité même éperdue de pouvoir reparler en son nom et dire des choses en son nom, ça permet d'arriver au point où on est capable de porter la parole des autres.
Bien
et
sûr.
Dans les spectacles qu'on a donnés, par exemple, c'était le cas. Donc, une femme porte la parole d'un homme. Une personne qui a toujours été dans le respect le plus profond de la religion et qui n'a pas eu ce genre de soucis va porter la parole d'une ancienne prostituée, etc. etc.
Donc on comprend à travers vos mots, Yana Perry, que c'est loin d'être un petit plus, cet atelier d'écriture. C'est fondamental pour eux.
Ah, je pense que c'est sans romantisme, je pense que c'est absolument fondamental.
Ouais. C'est rompre un silence aussi dans lequel parfois on peut s'enfermer ou dans lequel on nous enferme.
Vous pouvez répéter, pardon.
Est-ce que c'est aussi une façon de rompre un silence dans lequel on peut enfermer l'autre ou on s'enferme
absolument.
Soi-même parfois, quoi.
Absolument. Bah, de toutes les manières, quand on sort ou de la rue ou qu'on a bravé tous les périls du monde pour arriver en terre étrangère, on est si mal reçu qu'on en a honte, nous qui avons nos papiers, pour toutes celles et ceux qui vivent ce genre d'horribles aventures. Retrouver une voie, et ça veut dire vraiment quelque chose.
Oui, bien sûr.
Déjà, franchir les gigantesques obstacles intérieurs qu'on s'est dressés soi-même pour se protéger. Et on ne sait jamais, là je parle vraiment de cas extrêmes, et donc en effet de personnes qui viennent d'ailleurs, qui ne savent même pas si elles doivent dire leur nom.
Oui.
Ne savent même pas ce qu'elles peuvent raconter de leur histoire, parce qu'elles ont peur que ça puisse se retourner contre elles. Et en même temps que ça rejoint quelque chose de très profondément littéraire, quand on rencontre des personnes, en effet, qui ont vécu ce genre de qui ont subi ce genre de choses terribles, et ben on est face aussi à des énigmes, à des personnes aux noms multiples, au passé mystérieux, qui varie, qui change. C'est extrêmement bien exprimé, d'ailleurs, je veux quand même citer leur nom, dans le livre de Judith Pérignon, qui co-anime avec...
Tout à fait, qui vient sorti récemment. Ouais, ouais.
Elle a écrit un livre avec un des... notre doyen, des participants, Rachid Sakraoui, il a écrit un livre chez l'Iconoclaste qui s'appelle « Nous parlons d'un lieu où tout est fragile », qui est splendide et qui dit bien tout ça. Et là, le titre dit tout, je pense. « Nous parlons d'un lieu où tout est fragile ».
Mais on comprend immensément, et puis on comprend surtout l'importance de votre travail dans ces ateliers d'écriture. Merci infiniment, Yana Perry, d'avoir été avec nous ce matin. Toutes les informations sur l'atelier, sur tout ce que vous faites, sont à retrouver sur la page de l'émission via l'application Radio France. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin.
Grand bien vous fasse, sur France Inter.
Je voudrais... une petite maison blanche à l'ombre d'un cerisier, quelque chose de si calme que la tristesse trouverait un lieu pour se dire. Un lieu si clément que mon genou peut-être pourrait se courber vers le sol et le ciel caresser mes cheveux sans que la colère ne déforme mon visage. Ce poème, je l'ai écrit pendant la nuit, je me souviens très bien de quand. Mais ça, c'est les états dans lesquels on écrit. Je crois que c'est des états secrets.
Ouais. Je pense que la poésie est vraiment, pour moi, au cœur du propos, puisque il s'agit vraiment, pour la poésie, de réparer notre rapport au monde.
Vous venez d'entendre les voix de l'artiste Clara Isée, l'autrice Nathalie Moine. C'était l'an dernier, dans ce même studio, Léonie Pernet. Clara Isée, elle fait les chœurs dans votre chanson qu'on vient d'entendre, Réparer le monde. C'est une personne très importante pour vous.
Bah, c'est une chère amie d'abord, ouais. Et puis et une artiste que j'aime énormément parce que voilà, elle a le goût de la vie haute. Elle a un goût de la justice aussi très fort et mais d'une forme de volonté de vivre très intensément.
Ouais. Elle vous a aidé dans le processus créatif à certains moments ?
Pas sur ce morceau, mais sur l'album d'avant, le
l'album
Cirque
précédent,
de Consolation.
Ouais, ouais.
Elle m'a fait, sur plusieurs morceaux, notamment sur un morceau qui s'appelle « À rebours », travailler beaucoup la voix, l'interprétation, ça m'avait beaucoup aidée. Ouais. Beaucoup de bien.
Et parce que j'y ai pensé, parce que, alors, en l'occurrence, sur ce dernier album, hein, sur le troisième, votre premier titre, vous le parlez, et j'ai beaucoup pensé à elle en vous écoutant. Je ne sais pas si on peut dire parler, je sais.
Alors, c'est pas moi qui le parle, c'est une comédienne qui s'appelle Louise Fulliot.
J'ai pensé que c'était votre voix, vous voyez.
C'est un poème de René Char.
Oui, ça, c'est le poème de René Char, mais. Ah, mais j'ai pensé que c'était votre voix, en fait, vous voyez. Je suis désolée, Léonie Pernet,
je n'étais pas sûre
que c'était vous, vous voyez. On évoquait avec Clara Isée le pouvoir de la poésie, vous en avez déjà un peu parlé en ce début d'émission. C'est votre maman qui vous a fait découvrir la poésie ?
Bah, c'était vraiment une grande, oui, c'était une grande lecture, une grande lectrice, et puis elle me parlait beaucoup depuis vraiment que je suis bambin.
Oui.
Et donc c'est elle qui m'a fait vraiment découvrir la poésie, oui.
Vous écrivez dans votre chanson « Je suis un souvenir », vous écrivez « Je tamise mon verbe, j'exige poésie ». Alors on n'est pas obligé de tout expliquer en art, mais là quand même j'ai envie de savoir précisément qu'est-ce que vous entendez par « j'exige poésie ».
C'est cette idée haute et fondamentale de la vie que j'ai. J'exige poésie. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire je ne me satisferai pas de ce qui est là posé. Je veux aller plus loin, chercher l'or, chercher la sève,
ouais,
de notre monde. Ça veut dire ça. J'exige poésie. Et puis ça veut dire aussi que c'est comme comme une chasse, comme une traque.
Vous avez cette impression, vous aussi, Aya Sissoko ?
Mais c'est aussi, faites l'objectif, faites de mes ouvrages, c'est, enfin, vous parliez de colère il y a un instant. La colère, en fait, me concernant, c'est une pulsion de vie. C'est-à-dire que, voilà, j'ai décidé de vivre envers et contre tout, parfois envers et contre tous, et que personne ne me fera renoncer. C'est aussi une véritable ode, oui, à la vie, à cet amour de la vie, et pas une petite vie, enfin pas une vie étriquée, une belle et grande vie. C'est-à-dire que voilà, plus personne ne me fera douter, en fait, de l'importance qui est la nôtre, de la légitimité qui est la nôtre, J'ai de l'ambition, de grandes ambitions, et c'est aussi ce que je veux transmettre à ma fille, en fait.
Ouais. Alors, c'est ce que j'allais vous demander, parce que dans ce troisième récit, on sent, en vous lisant, alors je ne sais pas si je l'exprime correctement, mais une forme de responsabilité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire à travers ce mot responsabilité? C'est-à-dire que vos mots ont une responsabilité, vos mots ont une responsabilité dans l'histoire que vous transmettez.
Oui, mais c'est, me concernant, c'est aussi un privilège, au fait, de pouvoir écrire et d'être édité. Et puis c'est aussi une transmission qui a été celle de ma mère, c'est-à-dire que quand on prend la parole... En fait, c'est important. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Et donc, quand j'écris, au fait, voilà, il y a tout de même ce poids, en fait, sur mes épaules. C'est-à-dire, tu ne peux pas gâcher, en fait, l'opportunité qui t'est donnée.
Et oui, alors ça me fait penser aussi au fait que ce terme de responsabilité, je le ressens aussi dans le fait que vous parlez de vos proches, de votre famille. Donc je pense que vous avez une responsabilité dans ce que vous racontez sur eux.
Celle de la mémoire déjà.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est hors de question, en fait, de trahir la mémoire des miens, de trahir l'histoire qui est la leur, parce qu'ils ne sont plus là, en fait, pour la raconter. Et me concernant, il faut que je sois la plus juste possible pour ne jamais... les trahir. Et comme je disais, en fait, en début d'émission, il y a aussi cette volonté, en fait, de tendre vers l'universel. De dire aussi, en fait, la transmission, l'éducation qui a été la mienne, et qui puise, qui trouve ses racines dans la culture malienne, dans la culture mandingue, bambara et malinké, et qui est aussi celle de la charte du mandingue, où une vie est une vie vaut une vie n'est pas plus importante, n'est pas plus ancienne qu'une autre vie. Et voilà, et c'est en ça, en fait, c'est aussi ça, en fait, que j'ai envie de transmettre aussi à ma fille, c'est-à-dire toutes les vies, en fait, sont dignes d'exister, et toutes les vies sont importantes, et il faudra, en fait, que tu fasses tiens ce principe fondamental.
Ouais, et vous participez avec vos écrits à construire aussi et à renforcer cette mémoire collective à laquelle vous tenez.
Bien évidemment. Puis tous mes livres aussi, c'est aussi rendre hommage aux vivants.
Ouais.
Parce qu'on ne se fait jamais tout seul.
On est d'accord.
Et donc, c'est effectivement, j'ai connu le pire dans mon existence, mais j'ai aussi rencontré des gens formidables, des gens, en fait, qui ont su, à certains moments, quand on doutait de nous, quand on doutait, en fait, de notre légitimité, qui ont su nous conforter dans notre humanité, dans l'importance qui était la nôtre, dans l'importance qui était aussi nos histoires. Et c'est important aussi de leur rendre hommage, de leur vivant, pas quand ils sont morts.
Je voudrais qu'on donne la parole à Patricia, qui vient de nous appeler au standard de France Inter. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rapport à l'écriture, qui, me semble-t-il, est vital chez vous?
Oui, c'est absolument vital. Depuis janvier 2022, on m'a diagnostiqué un cancer. Et donc j'ai eu une période de rémission et puis une période de récidive. Mais dès le début, dès l'annonce du diagnostic, qui est extrêmement violent, j'ai voulu écrire. J'ai fait ça comme un journal de bord, jour après jour. J'avais l'impression que c'était très factuel. Je racontais tout, les examens, les rendez-vous, les visites, les mots techniques que je ne comprenais pas. Oui. Je les cherchais dans le dictionnaire. Donc je consignais tout et c'était pour moi. Et au fur et à mesure, je me suis dit que peut-être je pouvais le faire lire. Donc j'ai fait lire à mes proches qui m'ont dit « mais c'est super, il faut que tu continues ». Je me suis dit que c'était indispensable parce que tant qu'on ne vit pas cet événement, bah finalement on ne comprend pas.
Bien sûr.
Et depuis 2022, en fait, j'ai constaté, et mes proches aussi ont constaté, que mon écriture a évolué. De factuel, c'est devenu un peu plus émotionnel, un peu plus analytique, et je crois que je me suis... Je me suis trouvée, je me suis révélée, alors pas forcément que dans l'écriture, mais...
ça a participé,
ouais. Il y a des choses qui m'ont permis d'évoluer grâce à l'écriture. Elle m'a sauvée. Et je crois, si je peux me permettre, les premières lignes, en fait, donc j'ai appelé ça « Madame, c'est grave », parce que c'est les premiers mots que j'ai entendus. Et ça commence, jeudi 6 janvier 2022, madame, c'est grave, vous avez une tumeur, c'est un cancer du côlon droit. Le ton est sec, expéditif, d'une rare violence, 3 minutes à peine et la chambre se vide de la présence du médecin. Il referme la porte et me le voit là seul avec ce mot, cancer. Les larmes montent aux yeux, j'avais souvent lu des articles sur la violence de l'annonce du diagnostic. Cette fois-ci, c'est pour moi. Et donc c'est les premiers mots, et chaque jour,
vous avez consigné, ouais.
Voilà.
Bah, c'est formidable, merci beaucoup, je suis très émue, merci de nous avoir fait partager et votre écrit et votre histoire, et on comprend l'importance qu'a l'écriture. Et il y a une chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous venez de dire, Patricia et Léonie Pernet, je voulais vous poser la question d'ailleurs. On a l'impression que l'écriture, c'est aussi une expérience du sensible, on aime beaucoup parler de ça dans cette émission, que tous les sens sont mis en exergue quand on écrit. Est-ce que vous avez cette impression? Est-ce que vous écrivez avec tous vos sens?
C'est à moi que vous posez
la question. Oui, c'est à vous, Léonie.
J'écris avec tous mes sens, oui, et puis je crois qu'on écrit aussi avec une forme de sixième sens, c'est-à-dire que parfois c'est au-delà du rationnel, parfois les choses viennent, les choses sortent, et on les comprend après, à vrai dire.
Ouais. Vous avez un sixième sens, vous aussi, Aya Sissoko?
Oui, mais plus le temps passe, plus je me rends compte que lorsque j'appréhende l'écriture, en fait, c'est comme si j'étais habitée.
Ouais.
Comme si, je sais pas, en fait, une tierce personne, enfin, quelque chose, en fait, qui me dépasse, en fait, s'emparer de mon corps. Et,
le mystère dont parlait Gaël Faye en début d'émission.
Peut-être.
Grand bien vous fasse. Eva Rock sur France Inter.
Faire des ratures, ça aide à mieux apprendre.
C'est pour se poser des questions, des fois aussi, comme ça.
C'est bien de raturer, des fois, parce que aussi, Hugo, il a bien dit, ça nous apprend nos erreurs.
On rature trop souvent, c'est moche.
Pour moi, la rature, c'est bien, parce que si on a des répétitions, on peut trouver on rature, et après, on peut trouver un autre synonyme que, par exemple, jambe, nez. Si on a trop de mots jambe, nez, on peut raturer et on peut trouver un autre synonyme.
Bah oui, extrait d'un documentaire pour lequel j'avais eu un coup de cœur cette année, qui a été diffusé sur France.tv. Ça s'appelle Éloge de la rature, c'est un film de Lucie Lahoute et Stéphane Miquel. Et c'est un documentaire dans lequel on apprend notamment l'étymologie du mot rature, qui vient en fait de l'orfèvrerie. En fait, c'est quand l'orfèvre cisèle une pièce en or avec sa gouge, c'est-à-dire avec son outil, il entre dans le métal et les copeaux qu'il prélève, ce sont des ratures, on appelle ça des ratures, mais ces ratures, c'est encore de l'or, il ne faut pas les jeter, elles ont de la valeur, donc on mesure l'importance de la rature en écriture. Léonie Pernet et Aya Sissoko, est-ce que vous raturez beaucoup, Léonie Pernet?
Je rature énormément, j'ai un fonctionnement très, très étrange. J'écris beaucoup dans un véritable cahier avec un véritable stylo. Ouais. C'est mes penchants conservateurs. Et en fait, je rature et je recommence la phrase jusqu'à ce que j'ai la bonne.
Ah ouais, c'est vraiment un travail d'orfèvrerie aussi, là, pour le coup, c'est ça?
Oui, de névrose, oui, tout à fait.
De néphrose et d'orfèvre. Et vous, Aya Sissoko, vous raturez beaucoup?
Je rature énormément, mais ça fait partie aussi de ce processus qui consiste à être bienveillant aussi avec soi-même. C'est-à-dire qu'on peut se tromper, et puis on recommence. Ouais. Et si on met un genou à terre, ce n'est pas grave, on se relève et on recommence. On prend le temps de faire les choses.
Vous savez, on finit toujours cette émission, chers invités, avec un coup de cœur que vous avez envie de nous faire partager. Alors, soit un film, un livre, une musique, une citation qui nous permet ensuite de poursuivre la réflexion qu'on a entamée sur le thème de l'émission, en l'occurrence de l'écriture. Léonie Pernet, vous avez pensé à quelque chose?
Pas exactement.
Dites-nous. Ah, vous avez pensé à rien? Ah, je croyais que vous étiez en train de me dire non, j'ai pas exactement pensé à un livre ou à une série ou autre chose. Aya Sissoko, vous avez quelque chose en tête?
Alors là, je ne savais pas qu'on allait me poser cette question, mais j'ai envie, c'était une citation de Stéphane Hessel qui disait, il y a pire que la colère. C'est l'indifférence.
L'indifférence. Ouais. Vous inscrivez dans les pas de Stéphane Hessel qui avait écrit Indignez-nous. Indignez-vous, je vais y arriver,
oui,
pardon. C'est un livre qui a été extrêmement important pour vous?
Alors, je l'avais lu à l'époque, je l'avais totalement, complètement oublié. Et puis, il y a quelques mois, je suis retombée dessus. Et je me suis dit, mais voilà, il faut le relire encore et encore. Et continuer à s'indigner, parce que ben, s'indigner, c'est le contraire, voilà, de l'indifférence. C'est ce principe d'empathie qui fait qu'on a une conscience de l'autre, qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce que peut vivre l'autre. Et donc, c'est ce qui fait notre humanité.
Merci infiniment. Merci infiniment à toutes les deux pour ce dialogue autour des mots. Léonie Pernet, votre troisième album s'appelle Poèmes pulvérisés. Il est sorti chez Infiné Crybaby. Vous serez en concert le 24 août à Rock en Seine, à l'Olympia le 31 mars 2026. Et entre-temps, une grande tournée aura lieu. Toutes les dates sont à retrouver évidemment sur la page de l'émission via l'application de Radio France. Aya Sissoko, merci infiniment pour vos mots. Et merci, je conseille Léonie. Vivement vos trois livres d'Ambé Enba et Au nom de tous les tiens. Ce dernier est édité au Seuil. Elle réalise mes mots. Elle relise et elle réalise mes mots tous les jours. À la réalisation, Valérie Ayestaraï, Jessica Bagic, Anna Massardier, Noélia Fignol et Elina Garcia étaient à la préparation. Et ce matin, la technique, il y avait Arnaud Caillé et Rémi Sistiaga.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.